nouvel épisode de Apéro UX ce mois-ci. Alors, on a fait l'événement en octobre, alors que le dernier était en septembre de 2024. Donc, exceptionnellement, on a laissé passer qu'un mois parce qu'on avait le magnifique local de l'ETS, de l'École de technologie supérieure. Et c'est Félix Fauché qui va présenter les invités. Rapidement, on avait Thomas Coulombe-Morancy, candidat au doctorat interdisciplinaire en aménagement à l'Université de Montréal, Domenico Micheletti, consultant en expérience utilisateur et chargé de cours UX, Cornelius Rachirou. Cornelius est le directeur général de Amplitude et aussi un des organisateurs de Canox ou CanUX. Et Anne-Marie Lesage, professeure à l'écologie, justement à l'École de technologie supérieure également à l'ETS. Donc, je passe la parole à Félix et on se revoit bientôt dans un prochain épisode.
Donc, merci d'être là ce soir. J'ai vraiment les spots d'en face, mais bon, on va vivre avec ça. Oui. Oui, il y a des gens, il est enregistré sur le cloud, sur Zoom. Donc, le sujet de ce soir, ben, avant d'arriver sur le sujet de ce soir, on va commencer par remercier l'institution qui nous héberge ce soir, donc l'École de technologie supérieure. Pour ceux qui ont déjà assisté à nos événements, ben, j'y travaille depuis 3 ans, monté un programme de baccalauréat en design UX. On a des nouveaux profs qui ont joint le projet. Anne-Marie Lesage, ici. Nous avons également Guillaume Blum, qui est revenu de Québec pour nous. Alexandra Neméry, qui est, je sais qu'elle est ici, elle est juste ici. Et 2 nouveaux professeurs surprises qui vont arriver en 2025. Je suis très content de ne plus être toute seule à ramer pour ça. Je n'étais pas tout seul, mais bon, en tant que designer à l'ETS. Si vous avez des questions au sujet du projet, maintenant, vous pouvez aussi aller les questionner. Fait que ça va distribuer un petit peu la pression, puis ça va peut-être permettre à plus de gens d'en savoir plus là-dessus. C'est prévu pour septembre 2025, hein, donc si vous êtes aux études collégiales, c'est le temps. Je remercie nos commanditaires qui appuient ces initiatives-là de la communauté pour qu'on se regroupe de temps en temps et qu'on puisse échanger entre nous. Là. Il y a la partie panel, conférence, mais il y a aussi la partie réseautage que je pense est important. Parce que pendant les 22 ans que j'étais designer UX d'un boîte, j'aimais ça pouvoir me retrouver avec mes pairs. Donc, P2 & Co, merci de nous appuyer. L'agence Bassan. Blash & Young. Est-ce que Fred est là ce soir, Frédéric Blash? Il n'est pas venu? Bon, dommage, il écoutera l'enregistrement parce que je vais le citer. Autodesk, qui nous ont hébergés pour le magnifique apéro UX du mois de juin. Puis à Tecna, je vais aller l'ETS et l'hébergement à liquid.com. Le sujet de ce soir, il crée la polémique automatiquement. Je n'ai jamais proposé un sujet qui était aussi mal interprété ou en tout cas interprété de multiples façons à chaque personne à qui je le proposais. Donc, je vais essayer de cadrer un peu en vous parlant un peu du cheminement qui m'a mené à proposer ça. Le premier, c'est une conférence de Tout le monde UX, en fait, de novembre 2018. Avec Fred Blash, il avait appelé ça « Réconcilier UX et design ». Ça avait lieu chez Shopify, là, pour ceux qui étaient déjà là à suivre les événements à l'époque. Fred nous avait parlé de quand il est arrivé dans le monde du UX en 1999-2000, et lui, il arrivait du design, le programme de design et environnement de l'UQAM, et l'arrivée des ergonomes, puis comment ça se passait avec eux. Il nous a parlé des modèles, des compétences en T, les modèles en N. Fait que quelqu'un qui est capable d'approfondir ses connaissances dans 2 domaines différents, mais toujours être familier avec les autres disciplines avec lesquelles il travaille. Ensuite, en juin 2023, ben, j'ai participé à un panel sur l'éducation du design à UXPA qui se tenait à Austin. Puis, ce qui m'a frappé, c'est qu'en milieu du panel, je me suis rendu compte que j'étais le seul panéliste designer, alors que tout le monde utilisait le terme design. Les autres, c'était des gens qui venaient des bibliothèques économie ou facteurs humains ou informatiques. Puis là, je me suis dit, ah, c'est étrange, le mot design est partout, mais il n'y a pas beaucoup de designers. C'est comme différentes cultures qui se rencontrent. Ensuite, ben, il y a l'entrevue que Jean-François Poulin, co-organisateur, a menée pour mon carnet avec Thomas qui est ici, Retour aux sources du design sur sa thèse de doctorat, où Thomas évoquait les extensions du design, dont le design UX. Puis là, je trouvais ça intéressant parce que là, ça venait de vraiment de l'intérieur des sciences du design. Je trouvais ça intéressant de voir comment est-ce que le UX était perçu aussi de ce point de vue-là. Et finalement, au mois de juin dernier, si ma petite roulette veut fonctionner, ce qu'elle ne veut pas, je vais aller faire le tour. Ouh, plus rien. Excusez-moi.
Ouh.
Fait que le Bluetooth, il a décidé que c'était trop loin. Voilà. Donc, il y a eu trois conférences en même temps. J'ai vu ça passer sur mon LinkedIn. Il y avait des gens qui étaient à Config, des gens qui étaient à UXPA qui se tenaient à Fort Lauderdale cette année, puis des gens qui étaient à DRS, qui est une vieille conférence des sciences du design, Design Research Society. Et là, je me suis dit, ah, c'est étrange qu'ils tiennent ça en même temps. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a personne que j'aurais vu aller dans les deux autres conférences. Fait que là, j'ai fait, OK, mais c'est trois cultures complètement différentes, mais les trois pourraient utiliser le terme design UX à leur façon en utilisant le même terme. Fait que je me suis dit, ben, OK, je pense que ça vaut la peine d'approfondir ça, même si on ne sait pas où ça va nous mener. Pour, disons, simplifier, schématiser, j'ai essayé de cartographier les trois conférences sur deux axes, l'une allant du design jusqu'à l'utilisabilité. Là, j'utilise le terme utilisabilité pour faire un gros raccourci. J'aurais pu choisir l'anthropologie, les sciences sociales, l'informatique. Mais j'utilisais utilisabilité parce que UXPA se nommait Usability Professional Association jusqu'en 2012. Donc, je me suis dit, OK, c'est bon. On peut faire un contraste là. L'autre axe vertical, ben, il va de l'académie jusqu'à l'industrie. Et il existe, par contre, d'autres conférences. La défunte conférence internationale IXDA qui n'existera plus, a fait faillite. Malheureusement, on ne pourra plus y assister, mais elle avait des superpositions, disons, avec les trois autres conférences, l'auditoire des trois autres conférences. Puis on peut penser aussi à CAI qui a lieu à chaque année, qui aussi aurait probablement des overlaps. Fait qu'on voit CAI, c'est plus académique, là, mais il y a quand même des gens en interaction humain-machine. Qui se reconnaîtraient dans IXDA, qui se reconnaîtraient en UXPA, qui overlap. Ça, c'est un autre exercice que j'ai fait avec les panélistes qu'on a eus durant les 8 apéros UX auxquels j'ai participé comme organisateur. Fait que j'ai essayé de voir où est-ce qu'ils se situeraient sur ces deux axes-là. On voit qu'il y a quand même une espèce de lourde tendance vers le côté industrie-design, mais nous avons des gens qui viennent plus de l'académie en design, de l'académie en utilisabilité, facteurs humains. Puis aussi de l'industrie en facteurs humains. Et comment le design et l'utilisabilité se rencontrent? Donc, je vais vous faire juste un petit survol, là. Fait qu'au début, ben, les facteurs humains, le fameux le Boeing B-17 qui avait beaucoup d'accidents de la Deuxième Guerre mondiale, les pilotes, ils omettaient de sortir le train d'atterrissage à l'atterrissage ou parfois ils le rentraient même au moment d'atterrir. Fait qu'au début, on soupçonnait que c'était des erreurs de pilotage, jusqu'à temps que le psychologue industriel Alphonse Chapanis analyse tous les rapports, puis ils disent non, non, c'est une erreur de conception. Les deux manettes sont pareilles. Et les gens les manipulent souvent à l'aveugle. Donc, ils se trompent de manette tout simplement. Et sa solution, ça a été de coller des bandes de caoutchouc sur les commandes pour pouvoir les différencier à l'aveugle puis essayer de les distinguer, là, le codage par la forme, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui est devenu une norme. Donc, parfois, je mets des petites références comme ça, si jamais vous voulez fouiller plus, là. Un autre exemple ici, c'est de la genèse, c'est le design industriel et les facteurs humains qui se rencontrent. Donc, on voit un modèle de téléphone de 1937 conçu par le designer industriel Henry Dreyfus. Il était très élégant, tout le monde l'aimait, mais il y avait beaucoup de problèmes d'utilisabilité qui ont été corrigés sur le modèle subséquent, où, par exemple, on a aplati le combiné pour pouvoir le tenir entre l'épaule et la mâchoire lorsqu'on va avoir les mains libres, lorsqu'on est au téléphone. Vous voyez au niveau aussi du combiné, les chiffres et les lettres ont été sortis des touches parce qu'on peut avoir le doigt en train de marquer, puis quand même voir le chiffre qu'on est dessus. Puis il y a même eu des cibles au milieu. Celle-là est un peu plus bizarre, là, mais les tests ils ont montré qu'en mettant des petits points blancs au milieu, les gens ils réussissaient mieux à être performants, puis la fonctionnalité est améliorée. Dreyfus, il a consigné toutes ses apprentissages dans The Measure of Man, un livre célèbre là, à cette époque-là, avec, puis on voit le titre, là, Human Factors in Design, toutes les mesures anthropomorphiques. Je pense qu'il avait mesuré 2000 personnes pour avoir des mesures moyennes là, sur lesquelles travailler. Il y a aussi l'informatique qui est allée faire appel à différentes disciplines, dont le design, mais aussi bon, les sciences sociales, l'anthropologie, les facteurs humains, la psychologie, notamment au Xerox PARC qui est très connu, où l'utilisateur ciblé, qui auparavant était plus le col blanc, le travailleur de bureau, est devenu l'enfant. Qu'est-ce qui se passe quand on a un enfant comme utilisateur cible? Ici, une citation de Katz. Donc, l'arrivée de chercheurs en sciences sociales tels que Lucy Suchman chez Xerox PARC marque les pâles débuts d'un tournant. On passe de la pratique en atelier à la recherche sur le terrain, de l'exploitation des désirs à l'analyse des besoins et de l'objet technique autonome à ce que Suchman a célèbrement nommé l'expérience située de ses utilisateurs réels et prévus. Là, on parle, là, c'est dans les années 80, parce que Suchman a fait son doctorat, en fait, au Xerox PARC, qu'elle a publié sous la forme de livre ici avec Plans and Situated Actions. Des références si cette période-là d'informatique et du design vous intéresse. Je vous recommande, entre autres, Bringing Design to Software de Terry Winograd, qui est vraiment parfaite rencontre entre le design avec des gens comme Sean, mais aussi des gens du côté de l'informatique. Il y a aussi le design d'interaction qui a fait son entrée un peu en parallèle. C'est peut-être ce qui cause la multiplication des titres aujourd'hui, là. Donc, en 1979, Bill Muggeridge, designer industriel anglais, déménage dans la Silicon Valley. Il conçoit l'armature, le boîtier pour le premier laptop. Mais à l'utilisation du laptop, il se rend compte que finalement, la forme physique du laptop a peu d'importance. Lorsqu'on utilise le logiciel, c'est tout ce qui est à l'écran qui est important. Fait que lui dit, OK, il devrait avoir une discipline du design pour les interfaces numériques. Et il va la nommer avec Bilbert Plank, le design d'interaction. En 87, il embauche dans son agence Jane Fulton Surrey comme première psychologue, expert des facteurs humains. Puis, Muggeridge, il va être cofondateur de la célèbre agence IDEO là, en 91. Son magnifique livre Design Interactions avec beaucoup d'entrevues avec des praticiens. Puis un titre de Hélène Lupton, Beautiful Users, qu'on ne peut pas vraiment lire à cette séquence-ci, mais c'est, faites-moi confiance, c'est le titre. Puis c'est en référence évidemment au roman Beautiful Losers de Cohen. Donc on arrive au terme expérience utilisateur. Une des premières instances où on en parle comme pour le design des interfaces, c'est dans le manifeste de Mitch Kapper en 90. En 93, de façon célèbre, Don Norman utilise l'expression pour son titre chez Apple en arrivant, User Experience Architect. Et finalement, le titre entre 2005 et 2015 va devenir le titre dominant. Si on voit dans la littérature, par exemple, dans l'évolution de la littérature, on voit que c'est vraiment dans cette période-là que User Experience prend son envol, même si Human Factors reste, puis il connaît quand même une remontée, et on voit que c'est quand même beaucoup plus utilisé, du moins dans l'industrie, que Interaction Design. Donc, je vous inviterai maintenant à reprendre vos sièges pour les panélistes. Je vais voir si mon Bluetooth, il tient. Merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment content d'avoir assemblé ce panel que vous ayez accepté. Thomas, Domenico, Anne-Marie, Cornelius, je vous invite à vous présenter, puis après ça, je vais passer à la première question.
Ah! Oui. Bonjour tout le monde. Oh my God. J'avais hâte à ce moment-là où j'allais entendre ma voix dans le micro. C'est toujours vraiment douloureux pour moi. Je ne sais pas pour vous. Moi, je n'ai pas l'habitude, en tout cas, de parler dans un micro. Mon nom, c'est Thomas Colombanci. Je suis un candidat au doctorat interdisciplinaire en aménagement à l'Université de Montréal. C'est un doctorat que je réalise, entre autres, sous la direction de Philippe Gauthier. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui connaissent Philippe Gauthier. Puis aussi de mon co-directeur, Guillaume Blum, qui est ici ce soir. Mis à part être un candidat au doctorat, je suis aussi un chargé de cours puis de formation pratique à l'Université de Montréal. Donc, j'enseigne essentiellement des cours en design industriel. Surtout des ateliers de design de société, entre autres, qui est un atelier de design de service. On initie les designers à cette notion-là d'expérience utilisateur, parmi tant d'autres. Des cours un peu plus théoriques, comme mesure et observation de l'usage, où on apprend aux designers la notion d'enquête, qui fait partie, encore une fois, de ce grand schéma-là de l'expérience utilisateur, ou en tout cas, qui est un outil essentiel pour le faire. Puis, à part de ça, j'ai une petite pratique du design. Je ne me considère pas comme un praticien, peut-être plus comme un théoricien du design, mais malgré tout, j'ai une formation initialement en design de produits que j'ai faite à l'Université Laval. Puis j'ai fait ma maîtrise, entre autres, en design encore. Mais donc, c'est ça, j'ai pas une... Est-ce que c'était une courte présentation?
T'as une heure.
Je vais m'arrêter bientôt. Mais donc, en tout cas, c'est ça, j'ai une petite pratique. Je me suis engagé, entre autres, dans des collectifs où on a fait l'affirmation du design de façon un peu plus politique, se réapproprier l'espace, entre autres, dans différents contextes, se réapproprier l'espace public. Utiliser le design de façon critique pour poser des questions, ce qu'on appelle aujourd'hui le design spéculatif ou le design discursif à différents endroits, à différents moments. Donc, c'est ça. Puis, j'ai aussi œuvré dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. Voilà.
C'est impressionnant. C'est moins impressionnant pour moi. Donc, Domenico Micheletti, je suis consultant en expérience utilisateur, ce qui est le beau terme, qui ne veut pas dire grand-chose. Ça fait 10 ans, en fait, que je suis travailleur autonome. Avant ça, j'ai travaillé dans 2 agences. Donc, une extrêmement créative, une agence de SEO. Donc, on s'entend que c'était vraiment 2 affaires complètement opposées. Depuis 10 ans, donc, je roule ma bosse tout seul. Mais tu sais, je travaille un peu avec des agences à gauche et à droite, avec des clients directs également. J'ai travaillé avec Cargo Web, j'ai travaillé maintenant Bassin, j'ai travaillé avec Peter aussi. Je suis chargé de cours depuis peu, donc à l'École des sciences de la gestion l'été et au HEC depuis tout récemment. C'est un peu ça que je peux dire. Avez-vous des questions? Non. Alors, c'est vraiment ça. Je suis un peu, tu sais, tantôt, il y avait l'espèce d'axe, donc académie, industrie, puis je pense que moi, j'étais lui ici, en bas, que personne ne voyait. Je suis celui, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est celui. Je travaille beaucoup avec des PME, je travaille beaucoup avec des petites agences. Donc, j'ai vraiment une réalité du terrain. Puis, je suis vraiment, vraiment content d'être ici. Autant, justement, cet aspect académique, autant avec... Et puis, j'apprends à connaître Thomas, je connais beaucoup, je connais Anne-Marie, je connais Cornelius, j'apprécie énormément. Donc, je suis vraiment, vraiment content d'avoir cette discussion avec eux. C'est tout.
Merci, Domenico. Pour ceux qui se reconnaissent dans la carte, là, vous pouvez me demander de vous remonter, vous redescendre, vous tasser à gauche ou à droite, il n'y aura pas de problème. Puis après ça, on vous mettra vos noms, comme ça, on va voir si le portrait est juste.
C'est bon.
OK, il faut être proche. Bonjour, moi, c'est Anne-Marie Lesage. J'ai l'impression de connaître la moitié de la foule. Fait que ça fait plaisir de vous voir. Alors, brièvement, moi, j'ai un parcours bigarré. Puis quand je dis ça, je ne veux pas exclure personne. Je soupçonne que vous avez tous des parcours surprenants aussi. Enfin, j'ai commencé en beaux-arts. Puis là, je suis passée à un moment donné de beaux-arts à design parce que je suis tombée en amour avec le design. Puis la question que je me posais quand je suis arrivée en design, une des choses qui me motivait, c'est... Ayant fait des beaux-arts pendant 10 ans, si je sais quelle couleur je mettrais quoi, je sais quelle forme je donnerais à quoi, mais je voulais savoir, mais pour les gens avec qui pour qui je travaille, qu'est-ce qu'eux autres, ils veulent? Ça, ces questions-là, je me posais ça en 98, 99, 2000, où j'ai travaillé donc à New York, chez Sapient, dans ces années-là. Je suis revenue en 2003. Et pour me faire dire, madame, ce que vous faites, ce n'est pas du design, ça. C'est fait. Alors, on a reparti des trucs. J'ai travaillé au privé, mais j'ai aussi pris le temps de faire un doctorat à l'Université de Montréal avec plusieurs d'entre vous. Et me voilà. Enfin, là, je suis plutôt du côté académique, mais je suis rigoureusement... quelqu'un de design UX. Je dirais que sur le truc, là, je suis...
Je t'avais mis au centre, avec un petit penchant vers le design.
C'est ce que j'allais dire. Que, moi, je suis...
J'ai déjà suivi le cours d'Anne-Marie, puis à un moment donné, une étudiante qui a dit « Ah, ben là, David Carson, wow, ça fait tellement années 90 », puis Anne-Marie de répondre « Moi, je prendrais les designs de David Carson, puis je m'envelopperais dedans. » Je dis « OK, Non, ça, c'est plus design.
Oui. Positif. UX design positif. Alors, voilà. Juste, alors, et je suis heureuse d'être rendue à l'ETS. Incroyable. On est encore sur le choc. Oui.
Hopefully this works.
Yep.
Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Cornelius. Je suis le parti anglais de ce programme. Je comprends français, mais je ne peux pas travailler en français, alors je veux parler anglais. So, my name is Cornelius. I run a systemic service design agency in Ottawa, Canada. I am the chair of the Canucks Conference, if any of you had the chance to ever attend. I got into design from a bit of a different angle than these guys. I took computer science university, and then my third year, I took my first user interface course, and I was like, you know what? Databases suck, firmware sucks, but this is really cool. So I always kind of wanted to do that, and that's how I got into it. And if you guys remember, those of you who are old enough, there used to be this term of software designer, which was really a software developer. And then there was this term called a UI designer, which is really today a UI developer. But that's how I got into the industry. Over the years, I led the UX user experience practice at Deloitte Consulting in Canada. I led the UX practice at Shaw Communications in Alberta. And then I worked pretty much all over North America, and that's kind of how I got into this UX mess. And I have no idea why Felix invited me to be here, because I'm a service designer, but sure, we'll see where this goes.
Jeff invited you, but I was pretty happy afterwards, after an initial rebellion on my side. I was really happy, and then thanks a lot for making it to Montreal. For those of you who don't know, you were in Europe just 2 days ago, so you're probably still jet lagged. So it's a pleasure to have you here. Maybe a first question right away, like in that graphic, do you think that Canucks? I thought about putting it on the screen, but do you think it will kind of like be the same position as IXDA, or will you think it will be a little bit more? I don't know, towards.
What do you mean by position?
In terms of the two axes, like design and UX. And industry and academy, or maybe you can say, well, those axes don't work at all. So I wouldn't put it there.
We tend to look at it like as we have three pillars in terms of the content that we choose for Canucks, and we kind of look at it as research, design, and then service design. So those are kind of the three big buckets that we choose from, and then within each of those, we want to have a little bit of practitioner content and talks. We want to have some academia if possible. We want to have some inspirational stuff, right? So it's we kind of look at it from probably more dimensions than just sort of the
absolutely two axes. Yeah, it was a simplification, and l'utilisabilité, the term usability I put there, it could have been user research. I just wanted to make a shortcut. Thanks a lot. Let's see if this works. No, I'm gonna have to move again, sorry about that. La souris. Donc, sentez-vous une affiliation plus forte envers un des sous-domaines du design UX? Jean-François, j'aurai besoin de toi pour les flèches parce que le micro, je le partage avec Thomas ici. Donc, c'est un peu dur de faire le grand écart entre si quiconque veut commencer, je veux savoir, vous avez commencé à y répondre, je pense, là, dans vos présentations, mais ça peut changer. Je connais énormément de designers qui, après 10 ans en pratique, disent « That's it, moi je fais seulement de la recherche utilisateur, je veux être plus scientifique, je veux avoir des méthodes. » Dans votre cœur, est-ce que vous, il y a un sous-domaine du design auquel vous reconnaissez plus?
Je pense que c'est définitivement une question auquel vous allez avoir plus de réponses que moi. Dans mon cas, je n'ai pas d'affiliation spécifique envers un des sous-domaines du design. J'ai plus une affiliation avec le design en général. C'est plus ça qui m'intéresse dans mon cas. Peut-être que je pourrais peut-être clarifier un peu ce que j'entends par le plus tard dans la présentation, mais je serais curieux d'entendre vos réponses là-dessus, par ailleurs.
Moi, personnellement, je me considère comme un généraliste. Je me considère comme un touche-à-tout. Tu sais, jack of all trades, master of none. Donc, J'ai pas ce débat interne de savoir dans quel sous-domaine je me positionne. C'est vraiment selon le besoin du client, c'est vraiment selon le besoin du projet que je vais me placer, c'est donc le budget également.
Dans le
C'est
fond.
drôle, j'aime bien cette notion. T'sais, en fait, j'aime et j'aime pas. J'aime pas la notion du sous-domaine de UX. Le UX, c'est du
Okay.
UX. Le UX, mais je comprends.
Je vais te rappeler des paroles que tu as dites et qui sont
Oh
ils ont
non.
été enregistrées par Jean-François
Non, non,
lors de
non.
ton entrevue avec Alain Robillard-Bastien et Jean-François. Tu as dit, ah, des fois, je rentre dans des boîtes, puis là, c'est des boîtes plus tech. Puis là, ça
Ouais.
marche comme ça. Des fois, je rentre dans des boîtes plus design. Ça marche plus comme ça. C'est dans ce sens-là que moi, je veux explorer qu'est-ce qui fait que tu rentres dans une boîte, puis là, tu dis, ah, cette boîte-là est plus design. Là, la façon que tu le dis, c'est pas comme si tu te reconnaîtrais comme
Non.
parmi les designers. Fait que
Non.
là, tu es en train de dire, eux autres sont orientés vers le visuel, sont orientés vers.
Exact. C'est drôle parce que c'est une discussion que j'ai. Mon titre que je me dis très souvent, c'est que je suis un stratège en recherche et UX. Puis le côté design, puis tantôt on avait une discussion, genre, Dom, t'es-tu un designer? Et non, je ne me suis jamais identifié comme un designer. Ce n'est pas quelque chose auquel je m'accroche, ce n'est pas quelque chose qui m'identifie du tout. Peut-être justement, puis encore une fois, c'est peut-être mon background en agence ou ce que j'arrive. Il y avait cette approche justement que le designer faisait partie de l'équipe de la direction artistique, directeur des créations, direction artistique, designer, infographe. Puis là, on peut parler du designer UI, tu sais, genre. Puis je touche jamais à cet aspect-là. Je ne veux pas donner mon commentaire. S'il y a un côté, quelque chose qui ne fonctionne pas d'un point de vue UX, oui, je le mentionne. Mais est-ce que c'est beau? Non, et là, je sais déjà, là, je suis en train de me faire picher des rushs, là. Mais je ne joue jamais dans cet aspect-là. Je ne me suis jamais identifié dans cet aspect de design. Donc, des fois, je vais rentrer dans une boîte de design. Bien, c'est sûr que mon approche va être beaucoup plus sur ah, voici comment qu'on peut faire une bonne recherche en amont. Voici c'est quoi les bonnes pratiques. Voici c'est quoi les normes d'accessibilité. Voici c'est quoi les normes d'utilisabilité. Voici c'est quoi les normes SEO. Tu sais, quand on dit que je suis un peu jack of all trades, c'est un peu ça. Tu sais, donc, voici comment bien gérer ce projet-là, puis voici comment amener ce projet-là à bien fonctionner. Ça va être ça. À un moment donné, je vais me retrouver dans une game très, très, très tech, qui sont agiles, tu sais, genre au bout des doigts. Puis que là, je me bats avec eux autres pour dire non, une architecture d'information, ça ne marche pas nécessairement par sprint. On devrait peut-être le faire plus en amont. Puis là, non, ce n'est pas de même que ça fonctionne en agile, puis il faut s'adapter. Donc, c'est un petit peu ça la réalité d'un consultant, c'est qu'on s'adapte à chaque fois. Puis c'est pour ça, tu sais, que je dis, ben, les sous-domaines, c'est plus qu'il faut s'adapter. Tu sais, on amène nos connaissances en UX selon les besoins des clients. Puis c'est vraiment ça mon approche par rapport à ça
OK.
aussi.
Mais est-ce que tu considères que tu fais du design UX quand même? Juste du UX? Ou je... Non.
Non.
La réponse est non.
C'est drôle ça, OK. Quand on arrive dans une agence et que quelqu'un me dit « Ah, oh, tu fais du design UX, tu fais des wireframes. » Non, je ne fais
OK.
pas que des wireframes. Mais il y a encore une fois cette identification que c'est quoi du design UX? C'est justement, il y a un côté, on va faire le design système, on va faire vraiment les style guides, puis nous, tu as besoin de faire le squelette. Et puis explique-nous le squelette. Puis je suis comme « Mais non, je ne fais pas que le squelette. » C'est pas ça que je vais faire. Je fais une structure, oui. Je fais de quoi justement que ce soit navigable, que ce soit facile pour l'utilisateur. Je vais faire cette approche-là, certes, mais un designer UX n'est pas un wireframer.
OK.
Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, tu sais, est-ce que je fais du design UX? Je fais du UX.
Mais là, ça se décide souvent à ton prix horaire.
Ah, OK.
C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait me voir et qui me dirait, est-ce que tu ferais des wireframes pour moi à 150$ de l'heure? Tu veux vraiment des wireframes de moi? Je ne sais pas. Peut-être, tu sais. Alors, il y a une conversation là, qui peut être accélérée là, par, par le salaire que tu demandes, le prix que tu demandes.
Ouais. John Maeda disait que les designers, design thinkers, les designers visuels riaient d'eux, mais ils faisaient un zéro de plus sur leur paye.
Ouais.
OK. Tu peux continuer.
Oui. Moi, c'est définitivement donc design, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Recherche en amont du design, fait que la recherche qualitative, ça c'est vraiment c'est du bonbon. Ça je le fais parce que j'aime ça. Et puis parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la stratégie, c'est l'expérience, c'est planifier l'expérience, puis ça se bâtit sur qu'est-ce qu'on a appris des gens. Fait que souvent, je vais faire la phase de recherche, que j'ai beaucoup de fun. Puis là, arrive le temps de faire du design, puis c'est quelqu'un d'autre qui le prend, c'est correct. Fait que je suis comme entre les deux, là.
Cornelius,
I'm,
is this the
I'm...
one? Yeah, we got your nice frame. So, do you want us to put the Jesse James Garrett frame for your answer or not yet?
Sure, yeah.
Okay.
I was going to go there anyway. So,
Okay.
for me, I agree with Domenico. I agree. I'm similar to him in the sense that I'm a generalist, but I'm a generalist because in my career I've transitioned from role to role. So as I mentioned before, I started in sort of UI design, so usability, and then I moved into research, then I moved into information architecture, and then I moved a lot more on the interaction design side of things, and then into design strategy. And now, if I were to sort of identify one area where I like to play and where I typically play these days, is service design. But the reason I asked Felix to put this up is, so this is from 2000, right? So this is almost 25 years old. When you look at what Jesse James Garrett put in his Elements of User Experience book, back in the day, this was the first book, at least for me and for many of my peers, this was the first time where we actually saw all the elements that we cared about sort of laid down in a way that makes sense. So if you look at what's on here, user needs and object and site objectives, this is what research cares about. Then you have functional specs. So this is a bit more like BA type work, but then we have content requirements. So imagine content strategy in 2000, right? That's way before its time. And then interaction design, information architecture, and then navigation, interface design, and information design, which is what UI design is today, and then visual design, kind of the lipstick on top, right? But that's essentially how I think about all of these things. And in terms of being partial, no, I'm a generalist. And again, similar to what Domenico said, you ask, you're trying to solve a problem, and you have a toolbox, and you guys all have a toolbox, and it's a matter of picking the right methods in order to solve the problem that you're trying to attack, right? Design is creative problem solving, right? If you're not doing problem solving, it's not design. If you're not applying creativity, and if you're not applying sort of a combination of art and science to this, that's not design. It's either art or it's science, or it's either art or logic and deduction, right? So that's kind of where I'm at. I'm generalist, but with the focus on service design, because I find that that's where I can speak the language that I equate design with when I talk to my clients, is from a service design perspective. But I used to do all of these things throughout my career.
Awesome. And thanks a lot for bringing this up, because I've never seen it actually. So.
Mais juste 2 secondes, tu me demandais comment je m'identifie.
Oui.
Puis il y a 2 éléments qui viennent juste de dire, puis je trouve ça super intéressant. Quand je me présente, je dis très souvent, je suis un stratège en recherche et UX. Parce que cette approche, justement, de dire, mais c'est d'avoir la bonne stratégie pour attaquer justement une problématique, c'est ce que j'amène. Puis justement, cette notion de toolbox est super intéressante. C'est quoi ton problème? C'est quoi la problématique? Puis on va essayer de voir c'est quoi le bon angle justement pour pouvoir attaquer cette problématique-là. Et justement, est-ce que c'est de faire de la recherche? Est-ce que c'est de faire de la conceptualisation très, très, très rapidement? Est-ce que oui, c'est de faire une modélisation en wireframe pour dire, regarde, ta problématique, elle est là. Elle est vraiment dans un élément justement dans ton interface. C'est ça qu'on va attaquer, c'est ça qu'on va tester, c'est ça qu'on va valider ou itérer. Ça dépend encore une fois de chaque cas. Et c'est là qu'il y a une bonne analyse à faire aussi
Ouais.
qui est importante.
Mais si je me ramène aux 3 conférences qui ont eu lieu en même temps,
Ouais.
parce que clairement, les 3 conférences considéraient qu'ils n'étaient pas en compétition, l'associe quand même à UXPA parmi les 3. Je ne pense pas que ni Domenico ni Cornelius, vous alliez assister à Config,
J'ai adoré Config.
ni DRS.
Mais Config, pour de vrai, j'ai trouvé ça
Ah
super
ouais, t'es
intéressant.
allé?
Je l'ai vu.
Tu l'as vu,
Non,
ok.
allez là-bas, non. Mais
Ok.
je l'ai vu. C'était turbo intéressant.
Ok.
C'était vraiment intéressant de voir. Oui, c'est Figma, on s'entend, vraiment focus là-dessus. Mais de voir comment que l'outil va être utilisé, le UI3, qu'est-ce qu'ils ont fait
Ok.
avec, comment que l'intelligence artificielle s'en vient. J'ai pas vu UXPA. Je vais tout le temps à Canucks, en fait, puis au WAX. C'est vraiment mes 2 conférences
Ah,
fétiches.
Mais j'ai trouvé ça super intéressant de voir justement comment les utilisateurs de Figma vont s'en servir. Donc, c'est un petit peu méta, mais ça devient quand même intéressant de voir ce qui s'en vient aussi avec Figma, là.
Mm-hmm. It's a cult.
It is. Ah oui, c'est ça, ça cheerait comme quand Steve Jobs présentait l'iPhone. Là, c'était
Moi, ça me rappelle beaucoup l'époque où j'ai fait mon entrée dans le domaine avec Flash, où on faisait tout sur Flash, tout pouvait être fait, on pouvait coder, on pouvait programmer, on pouvait faire du motion design. Puis après, quand ça s'est spécialisé et que là, on était ramené, OK, il fallait choisir. On ne pouvait plus tout faire, peut-être, sauf sur des outils comme Azure, où on peut mettre des conditions, des variables, autant que le visuel, tout ça, mais... moi, je reconnais un peu l'enthousiasme qu'il y a de certains. Puis Flash, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un professeur américain, Letmanovich, qui avait écrit Génération Flash, puis il avait vraiment comme décrit là, la génération dans laquelle ceux qui ont commencé design web en fin des années 90 ont grandi. C'est comme, oh, il y a le movie clip, super! Alors que maintenant, j'écoute les gens parler de Figma, puis c'est ça, c'est comme, oh, ils ont ajouté cette fonctionnalité-là, c'est génial. C'est comme, ma vie est heureuse maintenant. Jean-François, s'il te plaît, la prochaine question.
Vanna White.
Notez-vous des différences dans les approches des designers et des professionnels de l'utilisabilité dans la pratique? Ça vient du fait que, en faisant un peu de recherche, je suis dans le même doctorat d'ailleurs que Thomas, lui, moi, je suis à mon début. Lui, il termine. Anne-Marie l'a terminé il y a quelques années. Et j'ai vu que en design, en fait, les gens ils voulaient être très scientifiques dans les années 60. Pour ceux d'entre vous qui étaient là chez Shopify, il y a un mois, même pas, Christelle nous avait apporté son livre de méthodologie de design qu'elle avait eu les années 70 à l'UDM. Puis là, c'était marqué comme « Voici les 230 étapes pour arriver à un design parfait. » Puis là, suivez les étapes en ligne. Puis ça, c'est exactement ça qu'il voulait, tu sais, il voulait scientifiser la pratique du design jusqu'à ce que dans les années 70, les gens disent non, ça, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On va aller voir les designers, comment ils travaillent, puis c'est pas du tout de même. Les gens, ils partent avec une idée, puis avec ça, ils filtrent, puis ils font des choix, puis ils établissent eux-mêmes leurs contraintes. C'est pas donné d'avance. Et je me demande quand même si vous voyez dans votre expérience une différence selon que les gens y arrivent du design ou de l'utilisabilité ou de l'informatique dans leur façon d'approcher les problèmes. Est-ce qu'ils sont plus problem focus, solution focus ou un focus ailleurs?
Alors, je n'étais pas sûr d'avoir une réponse pour ça, mais là, je pense que j'en ai une. Peut-être un peu de contexte. Dans le cadre de mon doctorat, je me suis entretenu avec une quarantaine maintenant de professionnels du design. Dans une diversité de secteurs, donc design social, design de services, design industriel, donc design de produits pur et dur, design d'interaction, design UX. J'ai même fait, il y a quelques cas atypiques là, comme design spéculatif, il y en a très peu, là, des gens qui font ça à Montréal, mais quand même, j'en ai dans mon échantillon. Puis ma réponse à cette question-là, c'est pas tant. Finalement, je me rends compte que les designers, ils procèdent toujours un peu de la même façon dans leur approche. Ce qui va varier, c'est la grammaire qu'ils vont utiliser. Ce qui est fascinant, en fait, avec le UX, puis peut-être que je vais réutiliser cette transition-là tantôt pour aborder un autre sujet, c'est que finalement, le UX, maintenant, il y a sa grammaire qui est propre, il y a ses méthodes, il y a ses institutions, il y a maintenant une tradition, hein, comme tu l'as montré tantôt, là, ça semble dans toute une tradition dont on peut rendre compte sur le plan historique. Vous avez même une façon de diviser le travail avec les UX designers et les UI designers, ce qui est complètement fascinant. Mais dans l'essence, finalement, les designers ils répondent un peu toujours de la même façon. Puis finalement, la question du UX est encore là chez le designer de produits. Par exemple, chez Alto, quand il s'en va pour designer un produit, la première chose qu'il va faire, c'est essayer de poser le problème. Puis ensuite, il va aller faire une enquête auprès des usagers pour essayer de comprendre c'est quoi leurs vrais besoins. C'est la même chose chez le designer de service. Quand on pense, par exemple, au travail que les filles font chez Meilleur Monde, on est vraiment proche des descriptions que vous avez faites de votre pratique tantôt. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'assez transversal dans la façon dont un UX designer ou un designer de produit aborde ces problèmes. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je ne comprends pas la question.
J'ai l'impression, moi, que la question, justement, n'est pas parfaite. À savoir que pour moi, la différence, ce n'est pas entre les individus et leur background, c'est entre la culture de l'entreprise. Alors, une entreprise qui aurait une culture de design aurait une manière de faire, puis tout le monde qui embarque finit par être bilingue là, ou pas, là, mais ils parlent cette langue-là. Une culture qui serait plus scientifique, ben, va attirer des gens qui peut-être sont plus scientifiques, mais ceux qui ne le sont pas, ben, l'apprennent aussi. T'sais, fait que je pense que ça. Est-ce qu'il y a des différences de culture? Oui, ça, je pense qu'il peut y en avoir quand même.
Ah oui, non, c'est bien. C'est vrai, c'est sûr que les cultures organisationnelles, ça a beaucoup, beaucoup d'impact sur notre pratique, sur notre travail, absolument.
I agree, it's a terrible question. I look at it a little bit differently. So I kind of look at designers as doing two different things. So we either ask questions through design or we answer questions through design. And depending on which of those two you feel closer to your heart, you're going to have a bit of a different angle in which you approach a project or, any kind of a design endeavor, right? But I think ultimately, I tend to be more to fit the profile of somebody who asks questions through design. So I'm more at the upfront strategy research, right? That kind of, understanding the problem, understanding that there is a problem, understand making sure that it is the right problem. I think that's 80 to 90% of getting there versus answering questions through design, which is more sort of the interface design, kind of the interaction design, that kind of aspect. So that's kind of how I think about it. I don't think about it in terms of, usability or research and design. I think about it as what are you trying to achieve through design? And it's either asking questions or answering questions.
OK. Thank you. Jean-François, prochaine question, si ça peut. On va voir si elle est moins terrible. Est assez terrible, tant qu'à moi. Croyez-vous que les stéréotypes au sujet du design, c'est de l'art, ce sont des goûts, les poussent vers des méthodes plus scientifiques? Puis ça se base sur le fait que j'entends beaucoup, beaucoup de mes collègues se plaindre que tu te présentes devant des clients, tu te présentes devant les VP. Et là, les gens disent, ah, non, moi, j'aime pas ça, puis c'est juste là-dessus. Alors que quand tu arrives avec la recherche utilisateur, ah, tu as des chiffres, tu sais, tu as des preuves, puis là, tu peux dire, OK, j'ai un argument à monter. Et je me demande, en fait, je me pose la question tout haut, si c'est la raison pour laquelle autant de designers, à un moment donné, quand ils découvrent la recherche utilisateur, sont attirés vers ça. Dans mon cas, je pense que c'était juste la curiosité de voir les différents domaines, les domaines complexes, comment est-ce que les gens font pour planifier des voyages de train, comment est-ce que les gens font pour faire de la logistique, tout ça. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi une question de, OK, je suis tanné de juste me faire dire mon travail, je me le fais refuser parce que la personne, c'est pas dans ses goûts, et là, je vais aller chercher quelque chose où j'ai un argument avec une preuve scientifique.
Ta question est bien posée. Personnellement, je la trouve vraiment intéressante. Est-ce qu'ils sont fâchés de se faire dire que c'est de l'art, puis à cause de ça, ils vont vers les méthodes scientifiques? Je crois pas, peut-être, en fait, par frustration. Ou est-ce qu'il existe encore, ou est-ce qu'on peut poser l'hypothèse qu'il existe encore différentes traditions du design qui se chevauchent, si on pense, par exemple, aux frères Bourlet qui font du design? Parisiens, là. Eux, ils sont clairement dans la tradition des designers des beaux-arts, ces génies inspirés qui n'ont pas besoin d'aller sur le terrain pour concevoir une bonne chaise, là. Ils font du design parce qu'ils sont inspirés, puis ils sont très fiers de le faire comme ça, puis c'est intéressant. Puis ben, on a d'autres designers, peut-être dans la tradition, peut-être plus du Ulmienne, hein, qui ont essayé de rationaliser le processus de conception, puis qui tiennent coûte que coûte à faire du design une science ou à quelque chose de rationnel. Donc, pour moi, il existe ces deux réalités-là qui cohabitent très bien. Après, je veux dire, c'est nécessairement, il y a peut-être des designers qui sont frustrés, qui sont tannés de se faire dire qu'ils sont des artistes, qui veulent sortir de cette posture-là. Ce serait tout à fait valable.
C'est une bonne question, j'admets. Ma réflexion, en fait, c'est drôle parce que, encore une fois, mon point de vue personnel, c'est que c'est très souvent moi qui va débarquer puis qui va faire l'aspect argumentatif. C'est moi qui va arriver avec l'aspect scientifique. C'est moi qui va arriver avec l'aspect, justement, plus Même les normes ergonomiques. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ça, dire au client, le client, il est là, puis il dit, hey, on voudrait faire ça à la place. Je suis comme, OK, mais ça ne respecte pas les normes, ça ne respecte pas la cohérence, ça ne respecte pas la constance. Et ce n'est pas la personne nécessairement qui a fait justement plus l'interface qui est capable de faire ces arguments-là. Donc, c'est encore une fois, cette espèce de drôle, encore une fois, c'est peut-être ma réalité personnelle. Mais non, je ne vois pas, tu sais, ceux qui font beaucoup, justement, l'aspect plus, encore une fois, esthétique, argumenté avec la science. C'est rare que je vais le voir, cet aspect-là. C'est, encore une fois, hey, ça en prend des efforts pour pousser une entreprise, petite ou moyenne, à engager justement dans de la recherche. Il faut les convaincre là-dessus, c'est tough. Très souvent, tout ce qu'ils veulent voir, justement, c'est, regarde, amène les interfaces, amène le design, amène les solutions, puis on prendra une décision à partir de là, mais basée sur notre expérience à nous, plutôt que basée justement sur une recherche que vous avez faire avec les utilisateurs. Donc, ça revient pourquoi à cette notion de le user research? Est-ce qu'il y en a? Pas tant que ça. T'sais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite chambre d'écho entre nous ici, là, de dire, hey, tout le monde fait un petit peu de user research. Ouh. Non. Puis c'est là même que c'est important, je pense, d'avoir des experts dans la salle, les avocats des utilisateurs. C'est ça notre rôle. C'est de représenter les utilisateurs dans un meeting de stakeholders pour justement dire, ben regarde, le design, là, oui, il est bon. Oui, cette approche-là est bonne. Oui, cette architecture-là est bonne. Oui, ce flow, c'est justement pour amener vers la conversion, est bonne. Et voici pourquoi. Et très souvent, il n'y a personne dans la salle pour le faire. Ça. C'est moi, en tout cas, c'est très souvent moi qui débarque et qui va avoir ce rôle-là d'argumenter. Donc, c'est ma situation, encore une fois, personnelle, mais c'est ce que je vois souvent.
Question additionnelle d'abord. Vas-y. Est-ce que dans ton expérience passée ou de consultant, tu avais à travailler dans des milieux agiles? Puis comment est-ce que tu gérais avec le cycle agile?
Ah! Agile. Oui. Est-ce que j'aime du agile? Puis ça, pour de vrai, quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup, c'était les... Tu sais, comment on appelle ça? Every Tuesday test ou every two Tuesday test? Mensuellement, on prévoyait de faire des tests utilisateurs. Ça, là, ah, que j'aimais l'approche agile par rapport à ça. Systématiquement, j'avais 5-6 utilisateurs qui arrivaient. On allait faire justement sur un sprint, il y avait justement des tests qui étaient prévus. Ça, c'était vraiment le fun. Pour l'aspect recherche, j'adorais, absolument. Pour l'aspect conceptualisation, MVP, là, c'est tough. Là, c'est comme, hey, on va pousser l'MVP. Je suis comme, mais il ne fonctionne pas ton MVP. Il n'est pas utilisable ton MVP. En tout cas, on reviendra là. Il est minimalement utilisable ton MVP. On ne peut pas pousser ça si rapidement. Prenons le temps. Faisons des. Tu sais, genre, mettons un peu plus de viande alentour. Puis non, c'est pas le même qu'on fonctionne. Ça fait un bout que je n'ai pas travaillé avec une gang d'agiles. Oui, j'aime beaucoup plus le waterfall parce que je trouve justement cette notion d'être en amont fonctionne mieux. Mais c'est sûr, encore une fois, cette espèce d'approche globale, cette approche stratégique, c'est plus fun quand tu es en amont en waterfall qu'en pur agile. Ceci dit, il y a des bénéfices au agile, je le vois également. En tant que consultant, c'est tough, tu agile. Ça aussi, c'est quelque chose que je tiens à dire. Là. Ça confronte un peu la notion même d'être un consultant.
Tout à fait, oui. Non, c'est ça, je me demandais, ça me surprend en fait que tu ailles à le faire. Normalement, je pensais que c'était comme exclusif au in-house qui doit justement trouver une place pour faire de la recherche alors que tu as un sprint qui te le permet pas.
Je reviens encore une fois, c'est le fun quand tu es consultant parce que tu peux éduquer une entreprise. T'sais, on parlait tantôt justement de culture, on parle de maturité UX. Ben, si on vite de la maturité UX, je ne me rappelle plus, mais tu sais, de 1 à 6. Mais quand on m'appelle, c'est pas parce que la maturité UX est dans le top, là. C'est parce que la maturité UX est vraiment en bas. Là. Je suis à 0 à 1, là. On commence, puis on t'engage en tant que UX, puis on te fout à la porte. Hey, oups, le budget est fini, bye! Puis c'est bye, mais au moins j'ai eu le temps d'éduquer un peu. Puis j'aime ça, justement, par après, recroiser du monde. Hey, tu sais, tu nous avais montré à faire ça, là. Tu nous avais montré à faire du tri par carte, là. Et on s'en sert. Je suis comme, yes! Cool. Donc, il y a une notion d'éducation aussi qui fait partie de mon mandat, puis je le vois, entre autres, avec des équipes agiles qui ont gardé, justement, les tests mensuels, les tests utilisateurs mensuels sur qu'est-ce qu'ils ont développé, justement, dans le dernier mois. Puis je trouve ça intéressant, encore une fois.
Merci, Domenico.
Ça fait plaisir.
Rapidement, alors, à propos de pour répondre à cette question-là, je dirais que si on se fait coller une mauvaise compréhension de c'est quoi le design, c'est parce qu'on ne l'a pas assez bien débattu, expliqué, vendu. Fait que ça pas. Ça, c'est plus. La question elle vient du fait que souvent les designers ne sont pas habilités, éduqués à vendre leur salade de manière que l'autre personne comprenne. Je pense que. Puis, ben, une fois que cette communication-là, comme dont tu parles, là, se fait, ben là, à ce moment-là, on n'est plus des licornes, là, tu sais, ça marche. Là.
Cornelius?
I think about it a little bit differently. So when I look at this question, I think about how we'd like to think of ourselves as we're doing evidence-based problem solving, right? So with this focus on evidence-based. And when we say evidence-based, most people would think, oh, scientific, right? So quantitative research, that's what scientific means. And I think about it differently in the sense that, yes, we need scientific evidence, but you can have artistic evidence that supports your theory, right? So we have design best practices, we have design systems, and we have sort of style guides, right? So these are not necessarily scientifically put together, but we know that they work, right? So you can have both of those. But on top of that, we also have market research, right? Market stats that also support our evidence-based decision making. And as a consultant myself as well, I try to see who am I, you know, who's my interlocutor, who am I speaking to, and if that person tends to be more on the figures type person, then I will bring market stats. If it's somebody who likes to sort of use logic and deduction, I try to sort of use research to support my point of view. And then if it is, a more artistic, a more sort of left side of the brain kind of person, then I try to sort of bring best practices and, you know, what works out there and bring examples that are more visual to make my point of view. So it's not necessarily one or the other, it's what helps you achieve the goal of moving the project along, similar to what Domenico was saying, right? We want to know, we want to understand who you're talking to, sort of know your user, right? Your client is to some extent your user as well, right? So treat your client as you treat your users.
Okay, thanks a lot. Prochaine question est pour Thomas. Deux fois, Jean-François, merci. Qu'entends-tu par extension du champ du design?
Oui, on peut peut-être avoir le dessin. J'essaie de construire le lien pour répondre à cette question-là entre la discussion qu'on a depuis tantôt. J'essaie quelque chose. Okay, fait, depuis tantôt, moi, je parle avec des designers dans la salle. D'ailleurs, il y a très peu de visages que je reconnais. En fait, il n'y a pas du tout de visage que je reconnais à part celui de Guillaume puis des conférenciers. Ce qui m'impressionne quand même, mais en tout cas, peu importe, ce qui me fascine, en fait, dans la façon dont les designers UX parlent de leur travail, c'est comme je disais tantôt, c'est toute la grammaire qui mobilise. Comme je disais tantôt, vous parlez de front-end, de back-end, de wireframe, vous divisez votre travail entre les designers UX, les designers UI, vous avez votre tradition maintenant qui vous appartient, qui remonte aux facteurs humains, puis qui converge avec le design, notamment avec, par exemple, qu'on pourrait appeler dans le sillage du fonctionnalisme avec Dreyfus. Vous avez vos institutions, on parle de la IUFX, c'est tout ça exactement? Je ne me souviens plus exactement de l'organisation, mais vous avez vos institutions de représentation. Donc, c'est vraiment intéressant la façon dont finalement le UX est en train de devenir quelque chose en soi, au point où on a l'impression que c'est quelque chose qu'on peut dissocier du design, comme tu as proposé finalement dans le titre de ce qui nous réunit aujourd'hui, design versus UX. Hence, extension du design. J'arrive. OK. Donc, moi, dans le cadre de ma thèse, je vais essayer de faire ça vite parce que c'est quand même un gros topic. J'ai recensé, en fait, j'ai travaillé sur essentiellement deux phénomènes co-occurrents qui se passent actuellement dans la communauté du design que je regroupe sous l'égide de l'extension du design. Puis, ces deux phénomènes co-occurrents-là, finalement, ils brouillent les représentations puis les conceptualisations qu'on se fait du design comme pratique, comme discipline. Donc d'abord, on a l'extension des frontières disciplinaires du design, où là, finalement, on a le design qui est en train de s'étendre dans des domaines toujours un peu plus éloignés. Il touche maintenant aux normes, aux politiques publiques, aux expériences, mais c'était initialement quelque chose qui était ancré dans la production de produits. Donc, c'est intéressant de voir ça. Puis, finalement, plus tard, tu parles d'un usage inflationniste du terme design. C'est un peu ce qui est en train d'arriver. On est en train d'accoler des étiquettes de différentes natures au design, essentiellement par les produits qu'on est appelé à réaliser. Après, c'est intéressant, mais ça pose la question de est-ce qu'il y a encore une unité particulière, quelque chose qui transcende chacun de ces segments de pratique-là qui serait le design. Ça pose la question, finalement, qu'est-ce que c'est le design à travers toutes ces choses-là? Le deuxième, que je trouve intéressant, puis ça, c'est un discours qui provient de l'intérieur du design, c'est ce que j'appelle la rupture de ces frontières disciplinaires. Puis ça, c'est peut-être un peu plus hors champ par rapport à ce qui nous réunit, mais finalement, c'est tous ces discours-là où, finalement, les designers, ils vont élever le design à un statut anthropologique. Ce que j'entends par là, c'est l'idée que vous avez sûrement entendu ça. Tout le monde, maintenant, est designer. Tout le monde peut faire du design. Il y a Enzo Manzini dans son livre, même si ça ne rend pas justice exactement au propos, qui dit « Everybody design ». Ça a été utilisé, ça a été réutilisé. Puis bref, qu'est-ce qui est intéressant dans cette conception-là anthropologique du design, c'est que le design, ce n'est plus une expertise en soi, c'est une faculté humaine que tout le monde possède. Puis donc, ça menace l'existence d'un savoir disciplinaire, à même de former des experts. Bon, je ne sais pas si les gens me suivent. Mais finalement, ce qui est intéressant dans cette extension-là du design, comme je disais, c'est que ça pose des enjeux importants sur les représentations puis les conceptualisations qu'on se fait du design, d'une part parce que, comme je disais tantôt, l'extension des frontières du design menace l'idée d'une discipline incohérente, elle menace l'idée d'un design comme une pratique unifiée, puis elle nous invite à penser le design comme une discipline qui est plutôt incohérente puis fragmentée en différents objets. Puis le deuxième, finalement, elle tend à représenter le design comme un répertoire d'outils puis de techniques. Puis ce que je veux dire par là, c'est que finalement, l'élévation du design à son statut anthropologique, je pense que ça atteint son paroxysme, entre autres, dans l'idée du design thinking qu'on connaît tous bien. Puis par design thinking, j'entends pas ici le programme de recherche super intéressant qui a été mené par Nigel Cross puis entre autres Brian Lawson, qui sont des figures intéressantes de la recherche en design, qui eux sont attelés à comprendre les processus cognitifs et sociaux qui sont impliqués dans l'acte de concevoir. Mais par design thinking, j'entends cette espèce de tentative de démocratisation du design qui a été faite par Tim Brown, entre autres, qui finalement nous propose l'idée que le design peut être réduit à une technique, hein, à une espèce de système, pas un système, mais un cookbook, hein, appelons ça un cookbook, que si on promet de suivre les étapes, on est promis d'arriver à de l'innovation. Donc, c'est un peu ça que j'entends par extension du design.
C'est ce que je trouve intéressant. Je vais le réécouter.
Oh, ton micro un petit peu plus.
Oh, oh. Allô? Enlève design, puis écris UX à chaque fois. Puis tout ce que tu viens de dire à propos du design, j'ai l'impression que la discipline du UX, on pourrait dire la même affaire. Pareil, pareil, pareil. La division, justement, la rupture des frontières disciplinaires du UX, la représentation du UX comme un répertoire d'outils et de techniques. Puis c'est vraiment même tantôt, tu disais usabilité, oh, je voulais dire user research. Pour moi, c'est pas la même affaire. Puis, la représentation du UX comme une discipline incohérente et fragmentée, même affaire, même chose aussi. Je le vois également, cette notion que le UX est flou. Le UX n'est pas très, très bien défini dans la population en général et même parmi nous, qu'est-ce que du UX? Ah, c'est du user experience, OK. Mm. Et après, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Je le vois exactement. Fait que je pense que je vais te réécouter. Puis à chaque fois, tu vas dire design, UX, je vais voir si c'est pertinent, mais j'ai vraiment l'impression que oui.
Tu peux même le réécouter sur mon carnet, il y a une entrevue plus longue. Je trouve ça intéressant ton argument, Domenico, parce qu'à la conférence d'ouverture du colloque Mutation pour fêter les 50 ans de l'école de design, le premier conférencier a terminé, il a dit en passant, le design s'est rendu comme l'anthropologie appliquée. Puis je pense que tu peux dire parfaitement ça du UX aussi.
Oui.
Oui, tout à fait.
En fait, ce qui est d'autant plus intéressant quand on creuse quand on creuse la question de l'extension du design, c'est de s'intéresser aux réponses que la communauté a essayé de donner dans une tentative d'identifier ce qu'on pourrait appeler un nœud commun, un corps commun, une unité particulière à la notion de design. Puis toutes ces tentatives-là, puis avec beaucoup de respect pour ce que les théoriciens du design ont fait, ont apporté moins de réponses que d'ambiguïté par rapport à la notion de design. Puis c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a entre autres un article de Pogan Paul puis d'autres de ses collègues en 2014 qui disent une des choses les plus importantes pour une communauté disciplinaire, c'est d'arriver à établir un langage, des définitions qui nous permettent de développer un discours intelligent sur notre discipline. Puis pour ça, il faut s'entendre sur des termes communs. Hein? Mais je n'ai pas besoin de rappeler à personne ici qu'on ne sait toujours pas comment définir le design, que les définitions du design vont varier en fonction des personnes à qui on s'adresse. Je suis pas mal sûr que s'il y a une centaine de personnes ici, on leur demande de définir le design, on a 100 définitions. Ce qui est intéressant, puis ben, en tout cas, c'est ça, j'inviterai les gens à consulter ces trucs-là, ou sinon je pourrais en parler un peu plus tard, parce que ça dépasse évidemment juste la question des définitions. Mais donc, c'est un débat en cours qui soulève beaucoup d'ambiguïté par rapport à qu'est-ce qu'on entend finalement par design. Qu'est-ce que c'est cet objet-là?
Oui, merci. Jean-François, on a la prochaine question. On va essayer de garder ça dans une dizaine de minutes là, pour la suite. Question pour Domenico. Là, vous pouvez vous rasseoir parce que tout le monde va reconnaître le même. En quoi cette image nous aide à comprendre la relation entre design et utilisabilité?
Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas, je veux dire. OK, encore une fois, full disclaimer. Quand j'ai commencé en tant que travailleur autonome, je mettais ça dans mon offre de service. J'ai fait de l'argent avec cette image-là, comme ce n'est pas permis. Puis, mais quand on l'analyse comme il faut, on se rend compte que ce n'est pas vrai que ça, c'est du user experience. Ceci n'est que le chemin le plus court. T'sais? The path of least resistance. C'est ça. Puis ce que ça veut dire, cette image-là, puis c'est ce que je n'aimais pas aussi. En fait, avec le recul, ce que je n'aime pas, c'est de dire « Ah, les designers, vous êtes des taouins, vous auriez dû construire le trottoir juste là. C'est ce que le monde veut. » Ce qui n'est pas vrai. C'est quand on y pense, cet élément-là, l'architecture, l'urbanisme, c'est du design aussi. Puis il y a toute cette notion, justement, de dire ben, « C'est quoi la réflexion qu'il y a eu par rapport à ce trottoir-là? C'est quoi... On en parle, les normes d'accessibilité. À qui appartient ce bout de terrain-là? C'était quoi l'intention avec ce bout de terrain-là? Et là, on fait juste un espèce de gros raccourci. C'est-à-dire, ah, si on avait fait une recherche comme il faut, si on avait voulu vraiment regarder c'est quoi la vraie expérience utilisateur, le trottoir, on l'aurait designé comme ça, juste là. Ça crée justement, tu sais, ce fameux UX versus design. C'est ça, cette image-là qui la perpétue. Le UX va avec le design. Le design va avec le UX. Et il faut tout le temps prendre ce fameux pas de recul. Il faut arrêter de réagir. Il faut arrêter de dire « Ah, vous voyez comment c'est simple, le UX versus le design? » Tu sais, nous, en tant que, justement, avocat du UX ou avocat du design, on devrait la démolir, cette image-là, à chaque fois qu'on la voit, à chaque fois qu'on la présente, à chaque fois que quelqu'un sort ça dans une conférence et vous dit « Vous voyez, c'est ça, du UX! » Vous devriez dire « Ah non, vraiment pas. » Parce que si c'est ça du UX, est où l'accessibilité? Quelqu'un en fauteuil roulant ne peut pas passer là. Okay? Qu'est-ce qui arrive quand il pleut? Okay? Je ne peux pas passer là. Comment que l'eau va s'écouler? Je suis sûr que si ça, c'est en Floride, c'est pas en Floride. Je pense que c'est en Allemagne, je ne me souviens plus là, exactement c'est où. Mais c'est ça, le design a eu un énorme travail en amont, mais qui n'apparaît pas ici. Il y a cet aspect que on essaie comme d'abdiquer. Fait que c'est pour ça que moi, quand je le vois, cette image-là, et je la vois encore passer une fois de temps en temps.
Moi, je ne l'avais pas vu depuis un bout de temps, puis tu me l'as envoyé.
Ah, ben je m'excuse. Mais je la vois encore passer. J'ai agi tout le temps un petit peu quand je la vois.
Merci, parce que quand j'ai vu ça dans le deck, ouais. Je me suis dit, ah, on va avoir des affaires à dire.
Tu m'as jugé, hein?
Ouais, avec raison.
Il y a des amorcés, là. Vous pouvez prendre vos places. Je pense qu'on n'a plus de gros graphiques pour quelques questions. Anne-Marie, une question pour toi. Tu nous as parlé tantôt, tu es allée chez Sapient à New York. Je voulais savoir comment se passait la cohabitation entre design et utilisabilité à l'époque de Sapient.
Bien, ça se passait très bien parce que c'était tout neuf, tout beau. C'est la lune de miel. Fait que c'est plus que, je veux dire, c'était pas mal plus facile à l'époque que maintenant. d'une certaine manière. Mais de la faire intéressante par cette époque-là, on parle là, le début des années 2000. Sapient, qui est une boîte d'ingénieurs, ont décidé d'acheter Studio Archetype, d'acheter eLab, où est-ce que moi j'étais, pour s'acheter cette information-là, pour qu'on puisse faire ce qu'on allait appeler du UX. Et tout le monde était content, tout le monde était heureux. Ça a pris 2 ou 3 ans pour que quelqu'un a dit il faut que tout soit UX. Alors, ils ont pris nos équipes, qui étaient comme une espèce d'agence interne, puis ils les ont distribuées partout pour que tout le monde, toutes les équipes, tous les ingénieurs apprennent à être UX, ce qui est louable en soi. Mais ce que ça fait, c'est que ça a complètement dilué l'impact du UX, puis on est disparu. Et puis, ça a été très difficile à partir de ce moment-là de rebâtir la culture. Là, on est passé d'une culture forte et locale à une culture généralisée, mais très, très faible. Fait que chacun, tu sais, on se faisait des meetings une fois par semaine pour pleurer ensemble. Mais parce qu'on était tous isolés avec plein de gens qui étaient fins, tu sais, puis qui voulaient apprendre, mais fonctionnait comme des trocs, tu sais, qui avançaient. Fait que c'était pas la mauvaise volonté, c'était juste de bâtir une culture à partir de zéro, là, qui a été un défi.
Oui, puis non, puis ça m'a surpris quand tu m'as raconté cette anecdote parce que justement, mettons Jared Spool, c'est ça qui prône de dire faut que, comme il y a tellement de décisions de design UX à prendre dans une entreprise, c'est pas juste les designers qui peuvent toutes les prendre. Il faut évangéliser, il faut former des gens, il faut diffuser ce savoir-là. Comme ça, toutes les petites décisions qui importent vont être prises avec une plus grande conscience. Mais c'est intéressant de dire, ben, quand tu fais ça, tu peux aussi diluer la
Oui.
force que tu avais de frappe. T'sais.
Tu sais, il y a un des thèmes qui reviennent aux apéros UX, puis qui était là à tout le monde UX, c'est le thème de c'est qui a raison, c'est qui l'autorité dans l'équipe. Puis quand quelqu'un d'UX embarque et dit oui, je suis d'accord avec vous, mais moi je vous dis que ça devrait être de même, c'est souvent mal compris avant d'être bien compris. Fait que la dilution de tout qu'est-ce qui est UX ou qu'est-ce qui est design nous aide pas parce que là, on devient menaçant pour n'importe qui était en charge du projet. Fait que ça fait partie aussi de cette équation-là, là.
D'accord. Jean-François, je vais te demander d'avancer, s'il te plaît, la question. So, Cornelius, I hope you had time to see that I changed your question. I talked to you about the UI on 2 days ago, but now, after speaking with you, I thought, well, okay, you mentioned that over-standardization of UX practice over the past decades is the culprit for its commoditization. I'm also perhaps merging with your paper and your talk on we all used to be designers. And I was wondering, do you think this is due to the natural specialization that happens in professional practice? And the example I'm going to give you, if it makes sense, I don't know if you guys have been to Miami Airport. So there's a little museum on the airplane. And it says, like, at the beginning of this airport, 100 years ago, the pilots will have to put together their plane and then try to fly it. So they had to be mechanicians and pilots and all these other things. And obviously, 100 years afterwards, pilots don't put their planes together, and all of these different crafts are specialized. And I'm just wondering, because we also talked about the flash time when we could do motion design and we could do UI interface, and we could also like do some programming. Do you think it's linked to specialization in some kind that Figma now has like just design systems and people don't do everything at once?
Well, yes and no. I like to think of the standardization as a bad thing. For me personally, I think this is what's happening now with the over-standardization of design is not just so most people defend it by saying, you know what, like we've done 1,000 shopping carts, we don't need to reinvent the way we do shopping cart UX, right? Which I fully agree. However, depending on what you work on, most likely you're building really complex systems that require research and require understanding the particular context and of the environment and the people for whom you're researching for. And nowadays, given that we've kind of moved way past standardization and commoditization to what it's called entitification, if you guys are familiar with the term, right? Like we are, there's so many unintended consequences in the things that we design, whether they're products or services or entire systems, the way we affect them. So I don't think standardization can address that particular problem. I still think we need to fully understand the context, the people, and the effects of what we do. And the fact that some members of the UX community, and my generation is absolutely guilty of that as well, is that we are promoting the standardized way of problem solving, whether it's design thinking or whether it's diamonds or whether however you want to look at your process, right? But there is no one size fits all. And having permission, and it's funny even using the word having permission to fully understand the context is most of problem solving when it comes to design. So I think we can take that away, and standardization does take that away. And Figma democratized design. Figma did something amazing in the sense that it put design on a browser, so somebody in Africa with a $30 computer can do design just as well as somebody in Silicon Valley, and that's amazing. However, now that everybody uses design systems and they fire their research organizations because they say, well, we have a design system, we already researched it, so now every context that we're going to use this, it's already researched, we don't need, we're good, right? And by the way, UI developers can use this by themselves, so we don't even need the designers, we just need two dudes to just keep track of the design system and we're done, right? So that's what a lot of UX has kind of moved to today. And the bigger the company, the better, obviously, the more resources you have to do something closer to the right thing. But, you see a lot of small companies, medium-sized companies who've fallen into this trap of, design thinking and over-standardized design that I personally hate. I don't think design is in a good place right now.
Awesome. Je suis totalement d'accord sur le fait que, moi, durant les 22 ans que j'ai été... amené à utiliser des style guides à l'époque, là, jusqu'à il y a 3 ans, dans le design system aussi. Il n'y a pas une fois où j'ai eu une page à monter où tout, tu sais, comme qui était prévu au complet dans le design system. Il fallait toujours faire, oh, OK, un cas spécial. Puis dans les boîtes où ça fonctionnait, ben, je prenais le téléphone, j'appelais le style guide owner, puis là, on parlait. Puis là, c'était normalement une personne qui connaissait le design graphique, puis connaissait les normes, puis connaissait la vision, puis le brand. Puis on disait, OK, tu sais, j'ai besoin de contribuer au style guide. Puis là, on voyait notre cas, puis on l'analysait, puis on le faisait. Fait que même au niveau du UI, tu peux pas juste assembler ça comme des blocs Lego, là, comme le veut la tradition. On va passer aux questions du public. Donc, peut-être, Jean-François, si tu peux skipper quelques slides pour arriver à juste la page des commanditaires pour pouvoir leur faire... non, Thomas, tu veux-tu y aller pour la dernière, pour l'inflationnisme?
Pas le temps, c'est...
OK, on va prendre, puis si jamais quelqu'un pose la question sur l'inflationnisme du terme UX, on te pointe. Bien sûr. Je vais juste mettre le dernier slide après ça, puis comme ça, on va pouvoir ouvrir. Est-ce que tu peux partager ton micro avec Thomas? Comme ça, moi, je vais pouvoir aller le porter dans full si jamais il y a des personnes qui lèvent la main avec des questions après la question de Thomas.
OK, je peux poser ma question?
Oui, vas-y.
En fait, c'est pour Anne-Marie. Puis en fait, vous pouvez répondre, mais je prends des raccourcis dans l'argument que tu as donné tantôt. Pas de culture de design, ça donne une allure au design qui est un peu menaçante, difficile d'agir dans des contextes pareils. Hein? Ish, ouais, c'est ça. C'est drôle parce que je lisais, c'est comme une question-commentaire, mais je te demande ton avis par rapport à ça. Je lisais un article de deux théoriciens du design, Mindler et Lassen, puis eux, ils vont nous dire dans cet article-là que la posture, en fait, le le fait qu'on ne prenne pas les designers au sérieux dans les organisations, ça leur permet d'adopter une position qui est vraiment intéressante. Ça leur permet finalement de formuler des critiques, de changer la nature du brief, justement parce qu'ils ne sont pas pris au sérieux. Puis ils comparent finalement les designers à la figure de des jesters, donc des fous du roi. Hein, ça serait ça la traduction qui, eux, avaient finalement, c'était un peu les adjuvants du dire vrai. En tout cas, Michel Foucault, il a beaucoup écrit sur la généalogie de la critique, ce qu'on appelle la figure parésiastique. Puis c'est ces personnes-là, à toutes les époques, qui sont capables de dire vrai, de tout dire, de dire la vérité qui fait mal. Puis à chaque fois, au courant de l'histoire, c'est des personnes qui adoptent des positions un peu marginales. Puis je me demandais si finalement, c'est pas aussi une force pour le design d'être un peu en dehors en dehors de ce cadre-là.
Oui. Peut-être. Si les individus qui portent cette job-là ont la force dans leur entreprise d'être des fous du roi, puis d'être capable de sourire, puis pas de se faire mettre à la porte, OK. Mais souvent, c'est pas ça. T'sais. Souvent, on a plutôt l'impression d'être sur une planche, le prochain à sauter. T'sais. Puis si on se sent menacé, ben là, c'est une autre game. Mais je veux dire, si on a une des stratégies qu'on avait chez Sapient, entre autres, là, c'était de se rencontrer entre designers pour pouvoir acquérir cette force-là, pour pouvoir tenir notre bout, pour pouvoir avoir l'humour d'être différent. Puis, je pense que l'humour, c'est bien important. Ça va loin. T'sais, si vous n'avez pas les arguments d'un doctorant poussé, l'humour, ça peut vraiment dépanner. Et, parce que ça vous rend humain et ça ouvre des portes. Alors, puis oui, alors il y a différentes techniques là, pour essayer de débattre, de tenir son territoire.
Mais si je peux relancer, puis je vais même utiliser Cornelius là-dessus. Cornelius parle beaucoup justement, tu sais, when you're talking about crafting, tradecraft, stagecraft, statecraft. Donc la notion justement, je disais craft dans le sens d'artisanat, mais c'est pas le bon terme, mais tu sais, le travail, la capacité de travailler. Donc, il y a cette notion que le stagecraft est super important. And I don't want to put words in your mouth, sorry about that. But la notion que le stagecraft, la notion de, ça fait partie justement, la mise en scène fait partie du travail. Le stagecraft, le côté politique, il faut être conscient de l'aspect politique. Et ce n'est pas juste le travail qu'on a fait, ce n'est pas juste ce qu'on présente, c'est comment qu'on le présente et être conscient également de l'univers dans lequel on est. Puis, je trouve ça justement super important, c'est cette notion justement que un bon designer et un bon UX racontent une bonne histoire. C'est toute cette information-là qui est absorbée ou toute la solution qu'il apporte, s'il n'est pas capable de la vendre, s'il n'est pas capable de l'expliquer, s'il n'est pas capable de raconter l'histoire qu'il y a en arrière de ça, puis qu'il dit « Regarde, c'est beau, hein? » Puis c'est ça son seul argument. Pouette, pouette, pouette. Ça prend justement cette notion de, tu sais, genre, pour être vraiment bon dans ce qu'on fait, oui, il faut être conscient également de pouvoir bien le présenter et de faire un bon stagecraft.
C'est complètement injuste. On ne demande pas ça des analyses d'affaires ou des analyses fonctionnelles.
Non, mais ils sont plates. On ne les écoute pas. Hey, ouais, un fichier Excel, tu le regardes comme... Alors que, justement...
Est-ce qu'il y a des analyses d'affaires dans la salle? Oui, c'est une question ou analyse d'affaires? J'arrive.
On va passer aux questions, alors.
Hello. So something that I found super interesting was the mention of standardization. And yet when it came to defining UX design, it was said that it's the une anthropologie appliquée, maybe also the facilitation of ideas into usable products. My question is, how do you sell your salad in your individual roles with your individual experience? Maria.
How do you sell what?
I believe Anne-Marie, elle a dit comment il faut être capable de vendre sa salade dans différentes situations. Puis je pense que de définir UX en tant que vos différentes expériences, ça va changer un peu ouais, comment vous le faites. Fait que je suis curieux, avec vos expériences et vos domaines spécifiques, comment vendez-vous votre salade?
Hey boy.
I'm always with qualitative data and quantitative data, and sometimes it's not convincing. So if you have someone that is more about, okay, what's the story you're telling, you will turn it down in like a beautiful story that everyone will be like motivated and they will dream with you. And others are very rational and you have to come up with all the numbers. And if you come with qualitative data, they don't care. It's all about numbers and how much it will cost and how productive or efficient you would be. So it really all depends on who you're talking to. It's not about who you are as a researcher or UX, someone that will do the wireframes or the one that will do whatever your specialization in the team. It's more about who you're talking to, and just answered very well. So I'm just repeating.
Yeah, and just for the record, I hate that I have to always justify everything that I do. I was talking to these guys before we got on stage, and I said I miss the 2015 to sort of 2017, 2018, which I consider to be like the peak of UX design, where I find that business owners knew enough that design existed, but didn't know enough in order to tell us how to do design. So, you know, like they didn't come to us to say, hey, I want you to use design thinking to do this, or I want you to use the double diamond to do this, or, you know, they just came to us and say, you're an expert, and, you know, why don't you solve this, help me solve this problem? And then designers had the agency back in the day to do things how we wanted. And, you know, like, yes, you have to still understand your client and understand their constraints and understand their situation. But we were in charge of design, which I find today, you know, design has been democratized to the point of, you know, we're not necessarily fully in charge of the things that we need to do. So that's
cool. Moi, j'aimerais ça. This is sad. This is sad. But to Maria's question, I would like to add on what Juliana was saying. There is something. So know you who you're talking to, what argument they're going to be sensitive to. Je devrais-tu le faire en français, peut-être. Hein? Mais le levier que j'utilise, puis qui est toujours intéressant pour moi, en tout cas, c'est de placer dans l'histoire un aha moment qui leur appartient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu du début du problème? Puis, où est-ce que moi, mon équipe, on a appris quelque chose qui peut vraiment changer le point de vue sur qu'est-ce qu'on a à apporter. Et donc, voici pourquoi on vous a suggéré telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et puis, mais il faut que dans l'énoncé de cette présentation-là, de vente de salade, là, il y a un « aha moment ». Il y a un moment où est-ce qu'on ne le savait pas, puis là, tout le monde fait comme « ah, c'est un point de vue qui se défend. C'est intéressant. »
Et moi, j'ai trois mots pour vendre la salade. Optimisation de conversion. Dites ça à un stakeholder. Dites, le UX va servir à optimiser vos conversions. Et là, il vous signe le chèque. Et c'est drôle parce qu'on n'en parle pas. Très souvent dans nos conférences, on parle de UX, on parle de empowering the user, on parle de ah, c'est donc bien le fun, on pense à l'utilisateur, mais show me the money. T'sais, ça revient à ça. Comment? Mais un bon projet bien géré en amont. Quand nous, on embarque là-dedans, qu'on fait la stratégie et tout, je m'excuse, je parle vite là, ça sauve l'argent. Puis ça, c'est un argument aussi.
Oui, prochaine question.
Allô, bonjour Zenko. Bonjour Anne-Marie. Je pose la question pour tous mes collègues, parce que je leur ai promis que j'allais poser, mais c'est autour de l'analogie de l'homme orchestre que j'appelle. Parce que je suis en pleine recherche d'emploi, je viens de terminer ma maîtrise. Allô tout le monde. Mais la question, je ne sais pas pourquoi on se pose même à design et UX deux solitudes, parce qu'il semblerait que dans les offres d'emploi, on voit toujours les termes design, UX, slash, UI. Ouvre les parenthèses, forte connaissance dans le milieu des finances. Et je me retrouve au moment d'envoyer mon portfolio, qui est déjà un autre débat, portfolio, pas portfolio. Bon, conviez-moi en entrevue, je vais vous parler moi. On fait quoi avec ça? On envoie quoi comme portfolio? Parce que j'ai un bac en design graphique. Et puis là, je vais finir ma maîtrise en recherche utilisateur, expérience utilisateur. Mais j'envoie quoi comme portfolio? Parce qu'on dirait qu'ils veulent que je fasse tout, mais moi, je ne veux pas tout faire. Mais ça semblerait être la seule porte d'entrée que beaucoup d'entreprises, et pas que les petites, j'irais avec des grands aussi comme Thales, qui mettent des offres d'emploi, design, UI, UX, bref, tout faire. On fait quoi avec ça? On envoie quoi aux recruteurs? On se vend comment? Telle est la question.
Moi, je veux juste rebondir là-dessus pour montrer une de nos slides qu'on a skippées. Ça, c'est une peinture à numéro de licorne, puis je trouve que ça l'encapsule un peu. C'est-à-dire que les offres d'emploi, c'est souvent des copies-collées qui demandent des licornes, des gens qui savent programmer, qui savent faire la recherche, qui savent faire le design. Puis, lorsqu'on se retrouve dans le poste, souvent, ce qu'on nous demande, c'est de faire de la peinture à numéro. C'est pas de moi, c'est Fred Blash qui a mentionné ça en 2018, puis je me reconnaissais 100% là-dedans. C'est ma seule contribution. Mais c'est triste, comme dirait Anne-Marie.
Le micro? Le micro. Ah.
En fait, oui, j'ai pas de réponse pour toi. Le seul truc que moi je trouve plate quand j'entends quelque chose comme ça, c'est que pour moi, ça c'est comme un travail que les institutions du design devraient avoir fait pour nous. C'est-à-dire que si les offres d'emploi ressemblent à ça, c'est parce que les employeurs savent pas comment les définir. Pourquoi ils ne savent pas comment les définir? Parce que nos institutions qui nous représentent en tant que design ne savent pas comment définir c'est quoi qui attend d'un designer. Fait que, je pense que, c'est une hypothèse. Hein? Une partie du problème repose dans un travail franchement latent que nos institutions de représentation ne font pas encore.
Moi, je vais blâmer les RH. Sérieusement, les RH, ils comprennent absolument pas ce qu'on fait, encore moins. Donc, ils font avec ces termes fourre-tout. Ma recommandation, et là, je vais y aller avec mon histoire personnelle. Moi, j'ai un bac en communication. C'est quoi les coms? Tu sais, je veux dire, c'est un bac et une maîtrise en communication, mais on sortait de là, puis ceux qui disaient, ben moi, je suis un spécialiste en communication, c'est comme, ah, ouais. Puis on en trouvait, tu sais, du monde qui disait, ah, ben on cherche ça, mais c'est quoi? Est-ce que tu es un rédacteur? Est-ce que tu es un journaliste ou quoi que ce soit? Ouvre ta niche. Je vais dire ça comme ça, puis vends ta niche. Moi, j'avais une amie qui, encore tout récemment, se disait, je suis spécialiste en rédaction. Puis, j'étais comme, wow, rédaction, mais c'est donc bien large. Puis elle ne trouvait pas de job, ou elle rebondissait d'une job à l'autre. Mais à un moment donné, c'est comment tu te définis, toi, c'est quoi ta spécialité là-dedans? Puis applique et débarque en disant, moi, ce que je fais, c'est ça ma spécialité, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'ai le goût de faire dans la vie. Puis là, tout de suite, tu vas voir la face de la personne dire, ah, mais c'est pas ça qu'on voulait. Ben, merci. Bye. Je comprends cet aspect-là, mais. Oui, qui parle?
C'est moi. Si j'osais, je pense que les postes de CX qui commencent à ouvrir beaucoup dans les grandes organisations pourraient être un casting intéressant pour les gens qui ont fait la HEC, qui n'ont pas nécessairement de background en design, mais qui ont un background en administration. Puis ils vont être nos meilleurs avocats étant dans les hautes sphères des entreprises dans le futur.
T'es où, GF?
Mmh.
Ah, salut.
GF, t'es-tu avec quelqu'un qui a une question?
Parce que moi, oui. Dans le fond.
C'est ça, comme le terme anthropologie a été mentionné plus de fois cette fois-ci que les autres apéros UX auxquels j'ai participé. Puis en anthropo, une des choses qu'on fait, c'est beaucoup de travailler sur comment les membres d'un groupe se définissent et définissent le membership dans un groupe. Juste un petit commentaire pour vous dire, parce que la définition d'un groupe, c'est beaucoup par altérité. On définit qui nous ressemble et qui se distingue de nous. Puis il y a beaucoup de travail comme ça qui est fait dans le milieu ici. Puis puisque j'en sors dans les prochaines semaines, je peux me permettre de vous le dire que faites attention au fait que c'est beaucoup mené vers l'intérieur. C'est pas mal inward looking. Là. C'est pas tellement un reproche qu'une espèce d'avertissement, une suggestion d'essayer d'ouvrir un petit peu ces frontières-là de comment on acquiert l'adhésion au milieu comme tel. Oui, vous avez des disciplines différentes, vous venez de toutes sortes de parcours, mais faites attention au fait que les gens qui veulent faire partie du milieu ont aussi d'autres façons de procéder qui pourraient être utiles au milieu comme tel. Ça pourrait vous aider justement pour vous vendre avec les emplois qui se révèlent un petit peu rares ces temps-ci. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la définition du groupe à ce moment-ci. Là, vous avez peut-être atteint un niveau de stabilité qui vous permet d'ouvrir un petit peu plus l'adhésion.
Merci, Alex. Ah, c'est Alex Saint-Cary, je peux te le présenter durant le networking qui va suivre. Y a-t-il d'autres questions?
Moi, je veux sa question à lui. Il a levé la main.
Maybe this is like a topic for a different discussion, but do you think AI makes design and experience like get farther away or closer?
I was hoping I can turn my mic on. AI is a tool. At least up to this point. So if you guys been to the last Canucks, we had Dan Saffer from Carnegie Mellon who teaches AI at Carnegie Mellon at master level students, and he was saying that, you know, he compared AI with the drunk island, right? So he was saying, you know, I would only trust any part of my business that I can trust an island full of drunk teenagers, right? You know, that's the level that you can trust AI. And I mean, I use AI, but as a service designer, I use AI to accelerate some of my workflow, but I don't really use AI for any decision-making or any sort of complex cognitive choices that I need to make. And I tend to rely on my experience and my team's work rather than you know, an algorithm to say what works for my particular context and scenario. Now, where is this going to go? Like, absolutely, if you're an interaction designer and you work on, you know, wireframing and visual design systems and so on, you know, like probably AI is going to be much more involved in that workflow. But as a service designer, as a systemic service designer, I have certain things that, you know, so for example, if I create a service blueprint and I have a swim lane that has illustrations, I have a bunch of AI tools that I can generate those illustrations 100 times faster than I used to be able to when I used to hire an illustrator to do those things for me, or I used to try to do them myself, or I used to use a library and then I had to kind of adapt and, you know, kind of change the images myself. So there are uses for AI, but AI is not yet what it's meant to be or what it's advertised to be for a designer. Now, there might be other domains in which, you know, AI can prove really good and interesting, like medicine and so on, but for design, I still have to see the killer use, the killer app or the killer use personally. But I mean, other people may feel different.
To go on this, like, I compare often AI as the best intern you're ever gonna get. Like, it's an intern, it's a stagiaire.
Is it a drunk intern though?
It's incredibly drunk, and you have to be really specific on what you wish to the AI, or he's gonna imagine stuff and he's gonna do really bad work. Really, really bad work. What config, when we saw at config, honestly, was a little bit scary. When Figma like said, oh, here's a prompt, and boom, an entire website was designed, like, oh crap. But is that your value? Is that what you bring to the table, is creating these quick wireframes? I hope not. I hope you bring something else. I hope you can argue this. And honestly, I didn't see Figma argue like why this is a good design and what are the mistakes and what should we test in AB or anything. And I don't see it coming anytime soon either. So use it.
And it was also a copy of Apple's design as well. So they had to take it off afterwards.
Was it?
Yeah.
Yeah. There was a big backlash.
I didn't know that. Great. Oh, that's funny.
Non, c'est bon. Puis pour ceux encore qui ont suivi les apéros UX, on en avait fait un en février 2023 chez Coveo, le premier avec lequel j'étais impliqué. Puis on avait invité Charlie Gideon. Je trouve que son utilisation qu'il y avait, là, ça faisait juste 3-4 mois là, que ChatGPT était sorti, je trouve que c'était encore une des plus pertinentes. C'est quand il pose des questions, quand il fait son script de recherche utilisateur, il demande à ChatGPT de lui dire pourquoi ces questions-là pourraient être mauvaises. Puis juste avoir une critique, un sounding board, voir s'il oublie quelque chose, fait que c'est low risk. Tu sais, tu vas évaluer, c'est pas quelque chose que tu es en train de demander de formuler 100 pages que tu liras pas. Puis ça me semble encore très valide. J'ai vu d'autres personnes le ressortir un an et demi plus tard, là, mais Je trouve qu'il était tombé dedans sur une application utile pour la recherche. Pour le design, je ne suis pas sûr qu'il fait aussi des bonnes critiques et qu'il connaît les règles, mais je trouvais que c'est quand même bien. Notre dernière question.
Oui, bonsoir. Je m'appelle Nabil. Merci pour la discussion. J'aimerais revenir sur les deux questions qui étaient plus sur l'évolution du design. Donc, is it getting standardized and are we pushing towards more of a scientific route because we feel like we have to justify what's going on and the decisions that are being made? When I heard shitification, quand vous avez dit que c'était triste, what came to mind is commercial interests and whether or not UX is now optimizing for an illusion of working for an end user, when the reality is you're working for a company and trying to convince them that the investment in this end user is good for the bottom line. So is that maybe the higher level discussion behind standardization being a bad thing or the scientific route being inauthentic or not the best route? Money, so is money a problem?
Well, I mean, because capitalism, right?
Because, like, yeah.
what you're describing is UX theater, right? So there is, and it, UX theater has been around for a long time, and people have always pretended to do UX, pretend to do research, pretended to do evidence-based decision-making, right? That's not going to change because sometimes it's because of budget, sometimes it's because, you know, we are, we have constraints that, you know, instead of fighting against, some people choose to just accept them and cut some corners. I mean, it's the reality, but do we have to accept it is the question. And, you know, sometimes you have, you know, you have to pay a mortgage and you have to kind of work in an environment that's not ideal, at least for the time being. And sometimes you might have the luxury to say, no, that's enough. I'm going to go and do something else and work somewhere else for an organization or for a person or for a boss that actually understands what I do, understands where I come from, understands what, you know, at least at a high level, what the value of design is and go from there. But everybody's situation is a little bit different. And I don't think you can take standardization and say it's a bad thing because of X. There's context.
Merci beaucoup. Merci à mes panélistes, aux panélistes d'avoir accepté l'invitation.